الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
La fête bénie du sacrifice.
La fête bénie du sacrifice.
C'est la deuxième fête des musulmans. Elle tombe le 10 de Dhul-Hijjah, 12e mois du calendrier musulman. Elle cumule de nombreux avantages et notamment... Premièrement, ce jour est parmi les meilleurs de l'année. En effet, les meilleurs jours de l'année sont les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit... Il n'y a pas de jours au cours desquels les bonnes œuvres sont les plus aimées d'Allah que ces 10 jours. On demanda, pas même le combat dans le sentier d'Allah, le jihad. Il répondit, ni le combat dans le sentier d'Allah, ni rien, sauf le cas d'un homme qui part combattre en mobilisant sa personne et ses biens, laissant là-bas et sa vie et ses biens. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Tirmidhi. Deuxièmement, c'est lui le grand jour du Hajj. En effet, en ce jour se déroulent les plus importants et les plus solennels rites du Hajj, comme la circumambulation autour de la Kaaba, le sacrifice de l'offrande animale et la lapidation de la stèle d'Al-Aqaba. Qu'est-ce qu'il est prescrit de faire le jour de la fête du sacrifice ? Pour celui qui n'est pas en cours de pèlerinage, il est prescrit le jour de la fête du sacrifice, Eid al-Adha, tout ce qui est prescrit lors de la fête bénie de rupture du jeûne et qui a été vu précédemment, à l'exception de la zakat de la rupture du jeûne, qui, elle, est spécifique à la fête de la fin du Ramadan. La fête du sacrifice, Eid al-Adha, se distingue par le fait qu'il est recommandé d'immoler une othiya, animal de sacrifice, en signe d'obéissance à Allah. Une othiya est une bête parmi les camélidés, les bovins ou les ranam, ovins et caprins, que par dévotion envers Allah, on sacrifie le jour de Eid al-Adha, après la prière de la fête et jusqu'au coucher du soleil du 13e jour du mois de Dhul-Hijjah. Allah qu'il soit exalté, a dit accomplis donc la prière pour ton Seigneur et fais le sacrifice. Deuxième verset de la sourate L'Abondance. Ce verset a été expliqué en disant que ce qui est évoqué ici, c'est la prière de la fête et le sacrifice de la Udhiyah. Sa qualification légale, c'est une sunna fortement recommandée pour celui qui en est capable. Le musulman fait le sacrifice pour lui et les gens de sa famille. Il lui est demandé s'il a l'intention de faire le sacrifice de ne rien couper de ses cheveux, ses ongles ou ses poils depuis le premier jour de Dhul-Hijjah jusqu'au sacrifice effectif. Les conditions que doit satisfaire la bête destinée à être sacrifiée. Premièrement, une des conditions est qu'elle fasse partie de certaines espèces de bétail appelées an'am, comprenant les ranam, c'est-à-dire le petit bétail composé d'ovins et de caprins, les bovins et les chameaux. Il n'est pas possible de sacrifier un autre animal et donc pas de volatile. Une bête parmi les ovins ou les caprins est suffisante pour l'homme et toute sa famille. Cette personne peut s'associer dans le sacrifice d'un bovin ou d'un chameau. Deuxièmement, elle doit atteindre l'âge requis qui est de 6 mois pour les ovins, d'un an pour les caprins, 2 ans pour les bovins et 5 ans s'agissant des chameaux. Troisièmement, elle doit être exempte de tare visible. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit 4 bêtes ne sont pas valables pour le sacrifice. La borgne, dont l'affection à l'œil est bien apparente. La malade, dont l'état morbide est flagrant. La boiteuse, dont la claudication est bien visible. Et la chétive, qui est décharnée, dépourvue de gras. Hadith rapporté par An-Nasa'i et At-Tirmidhi. Que fait-on de la bête sacrifiée ? Il est interdit de vendre une partie de la bête sacrifiée. Il est recommandé de la diviser en 3 tiers. On consomme 1 tiers, on offre au cadeau 1 tiers et on donne le tiers restant en aumône pour les pauvres. Il est possible de confier le sacrifice à quelqu'un. Il est permis aussi de verser le prix de la bête aux organisations caritatives agréées pour qu'elles se chargent du sacrifice et de distribuer la viande aux nécessiteux. La visite de Médine, la ville du prophète, paix et salut d'Allah sur lui. Médine est la ville que le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a rejointe à l'issue de son hégire quand il quitta la Mecque en raison de la persécution que lui infligeaient les païens. La première chose qu'il y réalisa fut la construction de la sainte mosquée dite du prophète Al-Masjid al-Nabawi, qui fut dès lors un centre de prédication répandant le savoir et le bien parmi les gens. Il est fortement recommandé de visiter Al-Masjid al-Nabawi, que cela se fasse durant la saison du Hajj ou lors d'une autre occasion. Cette visite n'a pas de rapport avec les rites du pèlerinage et elle n'est pas liée à un moment particulier. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: on effectue de voyages dans le but d'en tirer un mérite particulier auprès d'Allah ou en tant qu'acte d'adoration que vers 3 mosquées. Ma mosquée que voici, à Médine, la mosquée sacrée de la Mecque et la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Abu Daoud. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a aussi dit: une prière accomplie dans ma mosquée que voici est meilleure que 1000 prières faites dans une autre mosquée, à part la mosquée sacrée de la Mecque. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Qu'est-ce qu'il est légalement permis de visiter à Médine ? Il convient que l'intention et l'objectif du musulman en visitant Médine soit la visite de la mosquée du messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, et l'accomplissement de la prière à l'intérieur. Une fois qu'il se trouve à Médine, il lui est alors légalement permis de visiter certains lieux, et notamment, premièrement, prier dans la Sainte Raouda, qui est un emplacement bien délimité, se situant au devant de la mosquée, compris entre ce qui fut la maison du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, et son minbar, car prier là comporte un grand bienfait. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: entre ma maison et mon minbar se trouve un jardin parmi les jardins du paradis, Raouda. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Deuxièmement, saluer le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui. On se dirige donc vers la tombe du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, et on se tient debout devant elle. On lui fait face et on a la Qibla derrière soi. On dit alors avec respect, sans élever la voix:
Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Ashhadu annaka qad ballaghta ar-risala wa addayta al-amana wa nasahta al-umma wa jahadta fillah haqq jihadih. فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيا عن أمته.
Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur toi, ô messager d'Allah. Je témoigne que tu as transmis le message, que tu as respecté le dépôt qui t'avait été confié, que tu as été de bons conseils pour la communauté et que tu as combattu pour Allah comme il se doit. Qu'Allah te récompense pour les efforts que tu as consacrés à ta communauté, plus encore qu'il n'a jamais récompensé aucun prophète pour sa communauté. Le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Chaque fois que quelqu'un me salue, Allah me rend mon âme pour que je lui rende la salutation. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Après cela, on se dirige vers la droite pour saluer Abu Bakr le véridique qu'Allah l'agrée, le successeur du messager d'Allah et le meilleur des compagnons. On se décale encore à droite pour saluer Omar qu'Allah l'agrée, qui est le deuxième calife après la mort du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, et le meilleur de ses compagnons, Abu Bakr excepté. Le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, qui est pourtant le meilleur être humain, ne peut apporter à personne ni bien ni mal, aussi est-il interdit de l'invoquer ou d'implorer son secours, car l'invocation et toutes les formes d'adoration doivent être vouées exclusivement à Allah sans rien lui associer. Troisièmement, visitez la mosquée de Quba. Celle-ci est absolument la première mosquée bâtie après l'avènement de l'islam, c'est-à-dire avant que le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, ne construise sa mosquée à lui, appelée Al-Masjid al-Nabawi. Il est recommandé à celui qui se trouve déjà à Médine de se rendre à cette mosquée de Quba que le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, avait l'habitude de visiter. Il a dit à ce propos « Celui qui se purifie chez lui, puis se rend à la mosquée de Quba et y accomplit une prière, obtient la récompense de quelqu'un qui a fait une umrah. » Hadith rapporté par Ibn Majah.